Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end et pour débattre, décrypter l'actualité autour de ce plateau ce soir. Nathan Devers, agrégé en philosophie. Bonsoir Nathan.
Bonsoir Olivier.
À vos côtés Paul Melun. Bonsoir Paul.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes, je le rappelle, essayiste bien évidemment. Pierre Gentillet, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat. Judith Vintraube, bonsoir Judith.
Bonsoir Olivier.
Grand reporter au Figaro. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités avec vous Isabelle Piboulot.
C'est officiel, Olivier Faure est réélu premier secrétaire du Parti Socialiste avec 51,09% des voix. Sa victoire a été confirmée à l'issue d'une commission de récollement après un nouveau décompte des votes. Son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours les résultats. Le maire de Rouen crie au passage en force et dénonce des fraudes. Il demande à reprendre les travaux de la commission. À Paris, la manifestation contre la réforme des retraites jeudi ne s'est pas déroulée sans encombre. Un homme a été amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque d'un policier. Cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans, venu prendre des photos, était au sol au moment des faits. Une plainte a été déposée pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Drame à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Dans un immeuble, un homme a tué par balle sa compagne de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi. Il a également blessé la mère de sa compagne âgée de 59 ans. Cette dernière a été hospitalisée à Brest. L'homme de 24 ans s'est ensuite suicidé en retournant son arme contre lui. Les autopsies seront réalisées demain à Rennes. Et puis en Californie, les forces de l'ordre traquent le tireur suspecté d'avoir tué 10 personnes. Des véhicules blindés de la police ont cerné une camionnette blanche dans la ville de Torrance, au sud de Los Angeles. Lors des célébrations du nouvel an lunaire hier soir, une fusillade a eu lieu dans un dancing de Monterey Park. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 22h30, Soir Info Week-end. Au sommaire ce soir, le chef de l'État s'est exprimé ce soir sur la réforme des retraites. Après un temps social, il faut respecter le temps politique qui s'ouvre, affirme Emmanuel Macron. Pour lui, il faut pouvoir avancer et s'engager. Mais il assure aussi que le Parlement peut aménager la réforme. Alors le chef de l'État décide-t-il d'ignorer la colère de la rue? On en parle dans cette émission. L'alerte des patrons de la grande distribution sur l'inflation, ils préviennent, les prix vont encore augmenter. Alors l'État peut-il, doit-il encore mettre la main à la poche? Faut-il baisser la TVA comme en Espagne? Nous irons voir comment cela se passe du côté de Barcelone. Et puis nous reviendrons aussi sur l'inquiétude des boulangers. Certains ont décidé de manifester demain. Et la question délicate de l'euthanasie également ce soir, alors que les participants à la Convention citoyenne sur la fin de vie ont très majoritairement exprimé aujourd'hui avoir progressé. Une marche d'opposants a eu lieu à Paris ce dimanche. Alors est-ce le bon moment pour se poser la question de l'euthanasie en France? On en débat dans cette émission dans un instant. Et vous avez des choses à dire, bien évidemment, autour de ce plateau. On a hâte de vous attendre et ce sera juste après la pub. Restez avec nous sur CNews, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Nathan Devers, Paul Melinge, Pierre Gentillet et Judith Vintraube. Et toujours sur le devant de l'actualité, bien évidemment, la réforme des retraites, puisqu'Emmanuel Macron s'est exprimé ce soir, alors que les syndicats sont toujours, eux, déterminés à continuer leur opposition et que le gouvernement entend continuer, lui, à convaincre, tout en assurant prendre acte de la forte mobilisation de jeudi dernier. On écoute le chef de l'État, on en parle ensuite.
Il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée. Et il faut le respecter. Et donc moi, je souhaite que le gouvernement, avec les parlementaires à l'Assemblée nationale puis au Sénat, puisse travailler le texte et l'aménager. Et en parallèle de ça, il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement. C'est ça, la vie démocratique. Et c'est une bonne chose. Et donc je souhaite que cette vie démocratique suive son cours. Et je fais confiance à chacun pour qu'elle suive son cours de telle manière qu'elle soit apaisée et qu'il y ait le moins de nuisances possible pour tous nos compatriotes.
Donc le chef de l'État, plutôt serein, il faut respecter le temps politique qui s'ouvre et il faut en même temps pouvoir avancer, s'engager. Au fond, est-ce qu'il a décidé, même s'il en a parlé, d'ignorer totalement le mécontentement de la rue? Et pour lui, coûte que coûte, il a un cap et il va le tenir.
Le problème chez Emmanuel Macron, c'est qu'il y a vraiment un décalage, je trouve, entre les propos qui sont les siens. Là, dans l'extrait que vous mettiez, les propos sont tout à fait corrects. Il reconnaît la légitimité de la vie démocratique, des manifestations, etc. Et en même temps, de son action. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler une chose qui me semble essentielle, c'est que lors des dernières élections présidentielles, Emmanuel Macron a été réélu, non pas sur un vote d'adhésion, mais sur un vote, disons, de rejet du Rassemblement national. Donc ce qui fait qu'à l'exception de son bloc du premier tour, les électeurs qui se sont reportés sur lui n'étaient absolument pas en train d'exprimer une approbation de son programme, loin de là, et juste ils refusaient que ce soit Marine Le Pen qui fût élue. Emmanuel Macron, à l'époque de l'élection, avait eu une sorte de stratégie rhétorique assez habile en disant qu'il n'y avait plus de Front républicain. Et que donc, c'était une manière de sous-entendre que c'était un vote d'adhésion. Ce qui était faux, et ce qui est par ailleurs très dangereux, parce que c'est performatif tout ça. Vous dites qu'il n'y a plus de Front républicain, ça fait que ça contribue à le tuer. Et à partir de là, il est élu, et il propose une réforme qui est largement impopulaire dans le pays. Et en effet, on voit que les porte-paroles de la majorité présidentielle, majorité relative, nous disent quand même que cette réforme, son grand fondement, hormis une interprétation erronée, ou en tout cas contestable, du Conseil d'orientation des retraites, de leur dernier rapport, eh bien, c'est la légalité, la légitimité de son élection. Alors, son élection est évidemment légale, légitime en ce sens, mais on ne peut pas en déduire une légitimité populaire de son programme.
Oui, tout à fait.
Julie de Vintraub, Pierre Gentillet ensuite, vous voulez réagir?
Avant le club des tout à fait, parce que je pense que les trois sont sur la même ligne. Après la présidentielle, il y a eu des législatives. Mm-hmm. À l'Assemblée nationale, source de l'expression de la souveraineté populaire, se crée ou ne se crée pas des majorités qui font qu'un texte est adopté ou pas. Il n'y a pas de mandat impératif en droit, dans la Constitution française, dans le système français. Vous n'élisez pas des gens qui fassent telle ou telle chose. C'est absolument proscrit, interdit. Donc le caractère démocratique d'un texte de loi est décidé par l'Assemblée nationale, fut-il complètement impopulaire. Première chose. Deuxième chose, si Emmanuel Macron dit ça, c'est parce que certains dans la gauche radicale ont exprimé la volonté de bordéliser totalement l'Assemblée nationale afin que le débat parlementaire ne puisse pas avoir lieu. Je pense à Marine Tondelier, la patronne des Verts, qui a parlé de la transformer en ZAD. Mathilde Panot, la France insoumise, avait eu une expression à peu près similaire. L'idée étant, pendant qu'on fera ça et que précisément les députés qui sont élus pour ne pourront pas exprimer la volonté populaire, eh bien c'est la rue qu'on entendra. Eh bien ça n'est pas démocratique.
Pierre Gentillet, on vous entend dans un instant. On va écouter le chef de l'État, puisqu'un journaliste ou une journaliste lui a demandé... s'il entendait maintenir coûte que coûte ce fameux report de départ de 62 à 64 ans, vous voyez sa réponse.
Est un 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé pour accélérer l'augmentation de la durée de cotisation, qui, je le rappelle d'ailleurs, nous l'oublions jamais, les 43 ans, a été voté en 2013. Ce n'est pas une découverte. Nous l'accélérons et nous mettons 64 ans. Vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement.
Au fond, effectivement, Pierre Gentillet, l'argumentaire, c'est il n'y avait rien de caché, maintenant, il faut avancer.
Ah mais en cela, je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, c'est le problème d'une partie des gens qui défilent. C'est le problème d'une partie de la gauche, c'est le problème d'une partie des syndicats. C'est-à-dire que, là, je veux vous rejoindre, c'est-à-dire que c'est très bien, et on peut s'interroger sur la légitimité d'Emmanuel Macron, et j'en parlerai après, mais il n'empêche qu'il a été élu, et il a été élu grâce à ces gens-là. Il a été élu avec les voix de la gauche. Alors après, il y a eu des élections législatives, c'est vrai, mais il n'empêche que la première majorité relative, ça reste toujours celle d'Emmanuel Macron. Donc si vous voulez, je pense que ses interlocuteurs sont mal placés pour faire des reproches. Je le rappelle, la CGT comme la CFDT, je crois aussi, et évidemment toute la gauche, a appelé pour voter Emmanuel Macron. Et effectivement, il a raison, c'était dans son programme. Donc j'ai envie de dire assez trivialement, tant pis pour vous. Maintenant, on peut aussi dire que, certes, Emmanuel Macron est président de la République, certes, il a une majorité relative, et d'ailleurs, il s'entendra avec les Républicains à l'Assemblée nationale pour faire voter cette réforme, mais il y a quand même un déficit de légitimité et Emmanuel Macron doit diriger avec la réalité politique du pays. Et la réalité politique du pays, c'est que par deux fois, Emmanuel Macron n'a pas été élu en son nom sur son programme. Il a été élu contre quelqu'un, par un effet repoussoir, par un effet diabolisant, en particulier s'agissant de Marine Le Pen. Donc, on peut dire, je suis assis sur ma chaise légale, parfaitement légale, et j'ai été élu, mais c'est très très bien, personne ne le conteste. Mais il n'empêche que les fondements de ce pouvoir sont assez solides, parce que, ça a été rappelé par Nathan, et je le rejoins tout à fait, sa légitimité politique est assez faible.
Mais il le sait pertinemment, ça, Emmanuel Macron.
Oui, mais franchement, ne tournons pas autour du pot. La question de la réforme des retraites, si elle devait être tranchée démocratiquement, dans une démocratie accomplie, d'évidence, ça ne passerait pas. Donc on peut se couper les cheveux en quatre en se posant la question du parlementarisme, rationaliser, faire du droit constitutionnel. De toute façon, vous additionnez sur la ligne de départ tous les candidats à l'élection présidentielle. Sur les candidats qui se sont présentés, il y en a priori deux qui étaient favorables à une réforme des retraites en ce sens, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. À eux deux, ça fait même pas un tiers des Français tout mouillés. Par conséquent, si vous additionnez les voix de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, des écologistes, du Parti Socialiste, vous arrivez donc à une majorité de plus de 50% de gens qui n'ont pas voté pour une réforme des retraites. Donc, si le président de la République n'était pas un président au petit bras, mais qui se mettait dans les pas du général de Gaulle, eh bien, que ferait-il? Il ferait ce qu'a fait le général de Gaulle après mai 68,
en 1969. Un référendum, c'est ce que propose Jordan Bardella.
Et c'est ce qu'a proposé Fabien Roussel aussi. Donc, c'est une question qui fait consensus par-delà les divergences politiques et partisane. Donc, je crois que c'est la voie de la sagesse. Lorsqu'un sujet comme ça soulève un débat populaire, il ne faut pas vouloir mettre la poussière sous le tapis avec cette histoire de temps social et de temps politique. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Non, le temps social est politique et le temps politique doit soucier du social. Donc, si le président commence déjà à avoir une vision dichotomique sur ce sujet-là, il se trompe. Oui. Donc, de fait, ce n'est pas à lui de mettre fin au temps social. Les tensions sociales seront apaisées du moment qu'il aura pris une décision politique qui emmènera derrière lui l'ensemble du peuple français. Sinon, très franchement, ce n'est pas une démocratie.
Est-ce que l'abolition de la peine de mort est une décision illégitime à vos yeux?
François Mitterrand avait répondu à cette question par une citation célèbre. Il avait dit « gouverner, ce n'est pas plaire ». Et je lui laisse ces mots.
Et pourquoi disait-il
mais
ça? Parce
il a dit cela suite
si
à ce qu'il a fait en 1981.
Ah,
absolument. Et ça, vous savez,
non.
Moi, j'ai dit que c'est le vieux débat, c'est le vieux débat en démocratie de se dire existe-t-il des lois injustes et en plus existe-t-il des lois que l'on puisse faire passer par-delà la démocratie parce qu'il y aurait un impératif issu de notre pyramide des normes, issu du préambule de 46, issu de la décroissance des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est sur ce fondement-là que François Mitterrand a pensé cela. Je ne crois pas que la réforme des retraites, au même titre que la peine de mort, puisse s'inscrire dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour moi, c'est une réforme comptable.
Pour conclure, on fait une pause dans 40 secondes. On en reparlera à 23h de la réforme des retraites, mais pour conclure un mot, Nathan Devers, sur le référendum justement proposé notamment par Fabien Roussel et Jordan Bardella.
Oui, et Paul a d'autant plus raison qu'on ne peut pas comparer, me semble-t-il, l'abolition de la peine de mort et cette réforme des retraites. C'est que dans un cas, c'était une extension des droits. Et dans l'autre, il faut quand même nommer les choses, il s'agit d'une régression. Emmanuel Macron tout à l'heure disait, il faut avancer sur cette réforme. Donc il faut avancer sur une régression. Et d'ailleurs très souvent, En Marche en fait, c'est En Marche vers l'arrière. Vers l'arrière des droits sociaux. En Marche vers la logique, vers l'esprit du libéralisme du 19e siècle. C'est quand même cela.
C'est vous qui le dites, comme dit Julie Macron.
C'est moi qui le dis.
Et les retraites, on va continuer à en parler à 23h. On s'intéressera notamment à la stratégie des syndicats et de la CGT qui, pendant les vacances, n'exclut pas des opérations. Alors, est-ce que ça va plaire aux Français? Ça, c'est la question. Et puis, une question préoccupante pour nous tous, l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça, on en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez toujours autour de ce plateau. Nathan Devers, Paul Melun, Pierre Gentillet, Judith Vintraube. Et je vous propose de poursuivre à présent par cette préoccupation majeure pour les Français, l'inflation. L'inflation est ce cri d'alarme des patrons de la grande distribution, puisque selon Michel-Édouard Leclerc, eh bien, l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois alors que le prix ne cesse d'augmenter, comme l'ont constaté ces Français que nous avons rencontrés. Regardez.
Sur les légumes, les fruits, tout ça, j'ai constaté effectivement pas mal d'augmentations, des 20 centimes par-ci, même des 40 centimes sur certains articles. Donc c'est assez important quand même.
Je vois au niveau du paiement que je dépense de plus en plus, quoi.
Hein. Tout augmente, moi, je trouve. C'est, à la limite, ça vient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein.
Ça a énormément augmenté, mais ça va, il y a quelques promos, mais ça va pas. Surtout avec l'essence et tout qui augmente. Moi qui ai des enfants, ça va mal. Hein.
Alors on entend ces Français hein, qui constatent dans leur quotidien que les courses effectivement coûtent plus cher. Néanmoins, selon Michel-Édouard Leclerc, la France, pour le moment, s'en est plutôt pas trop mal sortie. On va voir à l'antenne hein, ce qu'a déclaré Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que selon vous, l'État doit mettre davantage la main à la poche pour aider ces Français qu'on entendait qui galère tous les jours et qui voit ses prix, Paul Melun, augmenter?
D'abord, l'honnêteté nous oblige à dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons là est, disons, plus générale que ce que se résoudre aux frontières de la France, de l'Hexagone, et que l'État, si vous voulez, là-dessus, a des marges de manœuvre qui sont difficiles, qui sont restreintes sur le volet économique du problème. Hein, c'est-à-dire que...
On a été meilleurs que les autres, comme le dit Michel-Édouard Leclerc?
Pour protéger les Français dans leur pouvoir d'achat.
Voilà.
Bah écoutez, oui et non. Pour le moment, on en est à commencer à voir le mur, si vous voulez, terrible de l'inflation qui est en train de se poser devant les consommateurs. Lorsque vous avez des augmentations des prix de l'énergie dans les proportions que nous connaissons actuellement, même si la France est un pays, une grande puissance agricole, et ça c'est un des éléments, si vous voulez, très importants de notre souveraineté alimentaire, de notre puissance, même là, si vous voulez, quand on entend parler ça et là, les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, lorsqu'ils nous parlent de l'augmentation de leurs charges, ils sont obligés de le répercuter. Maintenant, sur les solutions qui pourraient être apportées pour faire face à cette flambée des prix, il n'y a pas 36 000. Ou la grande distribution réduit ses marges. Mmh. Et ça, je ne sais pas si Michel-Édouard Leclerc y est prêt. Enfin, en tout cas, c'est un vrai sujet. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous arrivons dans des situations dans lesquelles les fournisseurs voient leur prix augmenter et donc, parce qu'ils ont un prix de revient qui augmente, montent leur prix vis-à-vis de la grande distribution. La grande distribution ne veut pas réduire ses marges, donc elle augmente ses prix à la consommation. Et les ménages français, lorsqu'ils arrivent avec le caddie, pour 80 euros avant, ils avaient tant de produits, maintenant ils en ont moins. Donc ça crée effectivement une crise terrible. Donc il faut que la grande distribution rogne sur ses marges. L'État n'a pas les moyens de faire quoi qu'il en coûte, et d'aller financer des chèques pour dire aux Français, eh bien non, maintenant on vous donne un chèque de nourriture tous les mois, etc., ou de titres de rationnement, ou que sais-je. C'est pas du tout ça la solution. La solution, elle est, si vous voulez, de la part des acteurs économiques. Et il faudrait que la grande distribution ait une incitation de la part de l'État à réduire ses marges temporairement pour faire face à la flambée du prix des matières premières, notamment.
C'est-à-dire, quand Julie Dintroube, les patrons de la grande distribution disent alerte, attention, ça va encore augmenter, eux aussi, ils ont une part de responsabilité?
Oui, sans doute. Je ne suis pas une spécialiste de ces questions commerciales qui sont extrêmement complexes, puisqu'on a trois parties qui se renvoient la balle. Les petits producteurs qui estiment être victimes de la grande distribution, les intermédiaires, c'est-à-dire les fournisseurs, dont la grande distribution dit qu'ils ont des lobbies, c'est le lobby agroalimentaire, il est super puissant, très bien représenté à l'Assemblée nationale, et c'est lui, en fait, qui maintient la pression, la tête sous l'eau des petits producteurs comme les producteurs de pommes qu'on a vu protester, tout en faisant qu'on n'a pas d'autre choix que de maintenir les prix élevés pour le consommateur. Donc tout ça, et franchement, pour comprendre ces mécanismes-là, on sent bien que c'est... On est très, 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 très loin de la concurrence pure et parfaite, que chacun se tient par la barche bichette, notamment dans la grande distribution, où on cherche en vain où le consommateur est gagnant, puisque il y a quasiment des ententes sur tous les prix. Pas un ne bouge une oreille sans être certain que son concurrent la bougera aussi.
Alors, il est 22h30, on va retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info. Dans un instant, on va s'intéresser justement à ces mesures qui pourraient être très concrètes pour les Français qui nous regardent, justement pour être aidés dans leur quotidien. On ira d'ailleurs faire un détour par l'Espagne, retrouver notre correspondant, puisque là-bas, ils ont décidé de baisser la TVA sur les prix de produits de nécessité. Alors, comment est-ce que c'est perçu là-bas? Est-ce que ça marche bien? On va s'interroger dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, chère Isabelle.
La France. France n'exclut pas de livrer des chars de combat Leclerc à l'Ukraine. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres franco-allemand. Une déclaration alors que Kiev réclame des chars Léopard 2 à l'Allemagne. Selon les propos de la chef de la diplomatie allemande sur LCI, le pays ne s'opposera pas à la volonté de la Pologne de livrer des chars Léopard à l'Ukraine si Varsovie en demande l'autorisation. En 11 mois d'affrontement, la guerre en Ukraine aurait fait près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 côté ukrainien, sans compter 30 000 civils tués. Des estimations communiquées par le chef de l'armée norvégienne qui n'a pas précisé l'origine de ces chiffres. La Russie et l'Ukraine n'ont pas donné de bilan fiable de leurs pertes depuis des mois. Et puis en Turquie, la population sera appelée aux urnes le 14 mai pour les élections présidentielles et législatives. Recep Tayyip Erdogan a indiqué vouloir faire usage de son autorité pour avancer les scrutins initialement prévus le 18 juin. Il s'agit là d'un ajustement en faveur des jeunes pour tenir compte des dates d'examen dans le pays. À la tête de la Turquie depuis 2003, le président espère y rester encore 5 ans.
Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot, ce sera à 23h. On s'intéresse donc ici au pouvoir d'achat avec une inflation galopante. Alors comment est-ce qu'on peut, les Français peuvent être aidés dans cette période délicate? Alors c'est vrai qu'on le disait à l'instant, c'est très technique, on n'a pas tous les éléments pour tout comprendre. Mais il y a Bercy en tout cas qui a une proposition qui serait un panier anti-inflation. Oui. C'est-à-dire que les grandes surfaces seraient invitées à choisir 20 produits vendus à des prix cassés. Est-ce que ça, très concrètement, Nathan Devers, c'est quelque chose que vous pourriez attendre de la part du gouvernement?
Oui, c'est une bonne solution qui est proposée, qui consiste, comme le disait Paul, à faire la pression sur les acteurs économiques. Mais il me semble, et je ne veux pas aller divulgâcher la suite de la conversation, mais il me semble qu'il y a quand même un autre aspect du problème, qui est la question des taxes. Vous voulez, quand il y a augmentation des prix, naturellement, ceux qui sont avantagés, ce sont les surfaces quand elles augmentent aussi leur marge en conséquence, et c'est aussi l'État. Je rappelle que la TVA, c'est une des très très grandes parties, un tiers environ, un peu plus même, du budget de l'État. C'est ça passe en premier. Et à mon avis, il faut poser cette question. Quand on voit que nous avons des pays européens, des voisins européens, qui vont déjà dans ce sens de baisser la TVA, et quand on voit aussi quand même que la France, qui est un pays où il y a énormément de taxes, et où le budget peut-être de l'État est mal employé, c'est-à-dire où on a un service public de mauvaise qualité, où on a un hôpital de très très mauvaise qualité, etc. Il faut peut-être poser la question de configurer autrement l'utilisation de l'argent du contribuable, de l'argent public, et éventuellement d'essayer à la fois de baisser les taxes au maximum et d'augmenter la qualité du service public.
C'est vrai. Nathan Devers prend le discours libéral.
Non, mais c'est vrai, Pierre Gentillet,
tout à fait raison.
On entend beaucoup.
L'espace de quelques minutes. Il y a un parti qui n'est pas spécialement libéral qui a appelé aussi à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. C'est le Rassemblement National. Je n'ai pas l'impression qu'il soit spécialement libéral. Il y a
des moins en moins.
Qui sont des mesures de bon sens. Si on peut utiliser cette expression, on pourrait regretter effectivement que ça arrive un peu tard. Moi, je rejoins l'argument qui a été formulé par Nathan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'inflation, l'État s'enrichit sur l'inflation mécaniquement. Et effectivement, la TVA, de mémoire, c'est à peu près 40%, entre 35-40% des recettes fiscales de l'État. Donc effectivement, l'État, entre guillemets, même s'il s'est beaucoup endetté ces dernières années, là, il s'est enrichi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce panier de 20 produits de première nécessité, ça a un effet vraiment vertueux, indispensable, parce que les hausses d'inflation sont les hausses d'inflation. L'inflation est la plus importante précisément sur les produits de première nécessité. Donc pour des gens qui en ont urgemment besoin, je pense qu'effectivement c'est une bonne mesure. Toutefois, je tiens à dire que certes, là-dessus je trouve que l'État a raison s'il va dans ce sens, mais je ne voudrais pas non plus qu'on oublie les responsabilités de l'État, en particulier sur cette inflation, parce que ne l'oublions pas, et trop de Français l'oublient, ce sont aussi des choix politiques qui ont conduit à cette inflation. Qui a décrété des sanctions contre la Russie? Qui a décidé d'intégrer le marché européen de l'énergie? Qui a décidé de revenir sur le nucléaire? Qui a décidé les confinements successifs qui ont dérégulé notre économie? Ou certains alertaient en disant « Attention !» Attention, nous allons payer plus tard les choix d'aujourd'hui. Eh bien, nous y sommes. Donc, n'oublions pas que ces choix économiques, ce n'est pas la météo, l'économie. Il y a des choix politiques derrière, peut-être un peu anciens, peut-être que les Français ont oublié, mais je pense qu'un rappel n'est pas inutile.
Mais justement, Paul Melun, ces choix politiques d'aujourd'hui, ils auront peut-être des conséquences pour demain. Il faut aussi penser ça.
C'est là que je voulais prolonger la fin de l'argumentaire de Pierre, qui est assez juste. C'est qu'effectivement, il faut faire un peu de politique économique dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on peut disserter sur un certain nombre de mesures de court terme qui peuvent être prises, et c'est bien légitime. Nous le faisons et nous en avons raison. Il n'y a pas 36 leviers, on l'a dit. Et il y a les taxes, la façon dont l'État peut effectivement rétribuer une partie des recettes qu'il peut avoir pour les consommateurs. Et puis il y a les acteurs économiques, grande distribution, fournisseurs, industriels, professionnels de l'agriculture, etc. Mais il y a encore un autre élément qui est un élément de long terme, c'est comment est-ce qu'on garantit un modèle économique pérenne, qui va s'inscrire dans la durée, qui va permettre au pays de mieux résister, de mieux être robuste face à des crises mondiales, face à des crises qui traversent tous les pays du monde, tous les chocs. Et nous savons que depuis la mondialisation, depuis les années 80, il est beaucoup plus difficile pour des pays souverains, pour des pays qui ne sont plus souverains, pardon, de se prémunir des chocs économiques qui se produisent. Donc ça pose, vous me voyez venir, une question de souveraineté économique, de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique. Pierre parlait du nucléaire, évidemment. Si nous avions une industrie nucléaire de haut niveau, eh bien les énergies auraient moins augmenté et nos agriculteurs seraient moins à la peine pour l'électricité, par exemple. Donc les prix monteraient moins haut. Bah, c'est pas très difficile à comprendre. Et pourtant, on a fait des mauvais choix stratégiques de ce point de vue. Là. Et pareil sur la réindustrialisation, pareil sur la sauvegarde d'un modèle agricole de qualité. En cela, on est protégé par la PAC, mais il faut continuer là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment deux leviers. Un levier de court terme, c'est les taxes ou les acteurs économiques à mobiliser, et un levier de long terme qui est comment est-ce qu'on construit une économie robuste face aux crises. Et moi, je pense que ça passe par la souveraineté économique et pas en vendant notre pays à la découpe, comme le fait Emmanuel Macron, qui, là, veut privatiser l'aéroport de Paris il y a quelques mois, qui ensuite veut... Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est pas la solution. La solution, c'est comment est-ce qu'on protège les acteurs économiques français? Comment est-ce que l'État est un facilitateur et pas un espèce de mondialiste qui va venir découper en tranches notre économie et la vendre à tout va aux États-Unis d'Amérique ou à l'Asie? Voilà.
Judith va trouver un peu moins d'Europe dans ce contexte économique compliqué. Vous pensez que ça pourrait sortir la France? En tout cas, ça pourrait permettre d'autres solutions que plutôt celles qui sont imposées ou proposées par Bruxelles?
Je suis un peu gênée de mettre dans le même sac la décision d'aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression soviétique et puis le marché unique de l'électricité, que je trouve une extrêmement mauvaise décision.
Évidemment, ça a eu des effets aussi.
Non, le fait que ça ait eu des effets est absolument indubitable. Mais ce n'est pas parce que ça a des effets, voire des conséquences néfastes, je pense...
Qu'on ne doit pas le faire.
Ah,
mais ça, c'est un choix politique, ça. On ne parle pas du fond du sujet, même si au demeurant, je suis contre.
On ne peut pas les traiter de la même façon. Le marché unique de l'électricité, ce n'est pas un choix... philosophique, vous me direz peut-être que si, d'ailleurs, c'est un choix, pour le coup, qui prétend être un choix libéral et qui est en fait un choix bureaucratique au niveau européen. Et effectivement, il faudrait qu'on en sorte. Bruno Le Maire le dit depuis des mois et des mois après l'avoir défendu mordicus, nos malheurs viennent de là, en tout cas en ce qui concerne le prix de l'énergie, et on ne voit rien venir. En tout cas, on ne voit pas venir, et ça serait le moment, de bras de fer avec l'Allemagne.
Alors en tout cas, malheureusement, on ne va pas pouvoir aller en Espagne pour voir comment ça se passe suite à un petit problème technique. Normalement, c'était François Bayrou, semble-t-il, sur cette baisse de la TVA éventuelle, qui disait que ça profiterait plutôt aux riches et pas aux pauvres. Alors, est-ce que vous comprenez cette réflexion?
Mais d'où la façon dont est pensé ce panier. Il y a plusieurs façons de penser ce panier alimentaire. Soit on dit, voilà, on prend 20 articles. Sur ces 20 articles, peu importe si vous achetez 1, 2 ou 3 articles, vous aurez une baisse de TVA. D'accord? On met la TVA à 5,5. TVA à 5,5, c'est pour les produits de première nécessité.
Alors, je sais pas si dans ce panier, il est prévu de baisser la TVA.
Une baisse de marge.
Non, ce sont des prix bloqués.
C'est les prix bloqués.
Prix bloqués. Okay, l'état hyper. Ou alors, deuxième possibilité, peut-être plus intelligente, je dis peut-être, c'est de dire, ces prix bloqués, ces prix préférentiels, si vous voulez, ne concerneront que les personnes qui achètent ces 20 produits. Et là, effectivement, on pourra cibler plus facilement les populations qui sont plus pauvres, évidemment. Donc tout dépend de la façon dont ce panier va être mis en place.
En tout cas, la fin des chèques, parce qu'on a vu le gouvernement donner beaucoup d'argent, faire beaucoup de chèques ces derniers mois aussi, ça, est-ce que finalement il va falloir que ça s'arrête un jour? Vous le disiez, Paul Melun, il y a un instant, il faut aussi penser à long terme.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez, la politique des petits chèques, c'est pas mal. Surtout que le président l'a beaucoup pratiqué dans les derniers mois avant l'élection. Ça permet toujours de faciliter un certain nombre de choses, notamment auprès des ménages les plus modestes, en essayant de les récupérer, en montrant qu'il a une politique sociale. Mais on ne bâtit pas une politique sociale sur quelques pourboires laissés ou quelques chèques. C'est pas ça, une politique sociale. Une grande politique sociale, ça commence par ne pas casser les services publics. Peut-être garantir aux gens une fin de vie tranquille, paisible et contemplative. Vous me voyez venir là aussi sur la réforme des retraites. Et ça passe par être un protecteur et un agent de sauvegarde, disons, de ce que le général de Gaulle ou le Front populaire nous ont légué, à savoir l'État-providence, et pas par, si vous voulez, tout casser. Donc si vous cassez tout, comme le fait Emmanuel Macron, mais qu'en même temps vous mettez des petits chèques ça et là, ou lorsque les Gilets jaunes vont mettre à sac l'Arc de Triomphe, vous mettez un gros chèque, non, ça c'est pas une politique sociale. Ça c'est des pansements sur une jambe de bois. Donc une vraie politique sociale, c'est pas ça. Ensuite, l'État, c'est vrai que son boulot, c'est davantage de mettre en place cette fameuse politique économique qui va protéger les plus faibles et qui va permettre in fine aussi d'augmenter les salaires. Parce qu'on parle du panier, on parle de la baisse de la TVA, il y a encore un autre levier qu'on pourrait ajouter, qui est le levier des salaires. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens gagnent bien leur vie correctement, pour qu'ils puissent eh bien, se nourrir, se loger? Aujourd'hui, quand vous touchez un SMIC et que vous vivez dans une grande agglomération en France, une grande métropole, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, vous ne pouvez pas vivre correctement, vous ne pouvez pas venir de façon convenable. Donc vous êtes obligé de partir en grande banlieue, vous dépensez du carburant pour votre voiture, etc. C'est cette spirale-là dont il faut sortir pour limiter la paupérisation de la population. Mais encore une fois, la politique des petits chèques, si vous voulez, ça marchera même pas jusqu'à l'été. C'est quelque chose qui est inopérant à long terme.
Je suis d'accord. Ensuite, le problème, c'est que politiquement, ça va devenir de plus en plus inacceptable pour une partie des Français pour deux raisons. La première, vous l'avez rappelé, c'est qu'on l'a fait récemment. Et puis deuxièmement, je dirais encore, de manière encore plus importante, souvenez-vous qu'on nous a quand même parlé du quoi qu'il en coûte. Donc si demain, des gens qui sont dans une difficulté conséquente, on leur dit, écoutez, là, c'est pas possible, alors même que l'État, je dis pas que c'est bien, au contraire, c'est mal, je considère, que l'État s'est endetté à hauteur de 15-20% de sa dette, je pense que ça sera inacceptable politiquement pour une grande partie des Français, même si économiquement je suis d'accord, il va falloir qu'on s'arrête.
En tout cas, dans ce contexte d'inflation, eh bien, il y en a qui appellent à manifester. Demain, ce sont les boulangers. Alors, c'est un appel du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. Et ce, malgré les annonces récentes du gouvernement et les nouvelles aides qui ont été données pour tenter de calmer la situation. On en a beaucoup parlé. Mais une mobilisation, c'est intéressant, qui se fait hors des syndicats. Cette fois, le président de la Confédération des boulangers, Dominique Enracte, lui, il n'appelle pas à manifester. Écoutez-le.
Il y a eu quand même beaucoup d'aides qui ont été mises en place au niveau des boulangers. C'est-à-dire, bon, il y a déjà le bouclier tarifaire qui est à moins de 36 kilos. Ensuite, il y a l'amortisseur, il y a aussi le guichet unique. Donc là, il y a aussi le prix d'énergie qui est en train de descendre. Donc on a aussi quelque chose qui a été mis au fait de vouloir casser tous ces contrats qui sont excessifs, ce qui fait qu'on va arriver déjà sur quelque chose où on n'aura plus de contrats toxiques.
Alors, cette inquiétude des boulangers qui seront dans la rue demain, on va en parler justement avec Catherine Maillard de la boulangerie La Maillardise à Levallois-Perret, c'est dans les Hauts-de-Seine. Catherine Maillard, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous en liaison en direct sur CNews. On entendait à l'instant le président de la Confédération se dire satisfait finalement des aides de l'État. Il n'appelle pas, lui, à manifester. Ce n'est pas le cas, selon vous. Vous n'êtes pas satisfait des récentes aides?
Non. Non, bonsoir. Merci de me donner la parole parce que je suis vraiment très, très en colère lorsque j'entends le président de la Confédération parler ainsi. Il sait très bien, il y a eu des réunions il y a une semaine avec des experts, que les aides, ça ne fonctionne pas, car 80% des boulangers ne sont pas éligibles à ces aides. Ils nous considèrent comme des incapables, on n'est pas capable d'aller chercher les aides. Mais si, nous sommes des chefs d'entreprise responsables et nous voulons sauver nos entreprises, mais nous n'avons pas accès aux aides.
Et pourquoi vous n'avez pas accès à ces aides?
Trop restrictives.
Pourquoi n'avez-vous pas accès à ces aides?
Mais parce que le guichet, c'est seulement 10% des boulangers qui sont éligibles. Parce qu'il y a des critères, les 3%, les dépenses énergétiques doivent représenter plus de 3% par rapport au CA de 2021.
D'accord.
Et, Et dans nos cas, c'est entre 2,5 et 2,7%. Donc, ce n'est pas possible. Après, l'amortisseur, c'est un faible pourcentage de réduction des factures sur des factures multipliées x 5, x 6, x 7. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut, si on veut vraiment nous sauver, il faut repartir, il faut repartir en négociation. Il faut que nos fournisseurs acceptent de revoir nos contrats. Sinon, il y a 80% des boulangers qui vont crever. Et nous, si on meurt, c'est tout un système économique, une filière qui va s'écrouler. Il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de se faire plaisir. On comprend que c'est politique, là. C'est pas possible, quoi. Monsieur Enrac, écoutez-nous, écoutez la base. Ça ne va pas.
Donc, du coup, vous sentez très mal représenté aujourd'hui par les syndicats.
Tout à fait. Pas par notre syndicat, mais par la Confédération. Le syndicat, on a travaillé avec eux. Ils ont reçu des experts. On a été reçus au syndicat, les adhérents, la semaine dernière, ils ont mis le doigt justement sur le problème. Les aides, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas qu'on nous sommes des incapables, qu'on ne sait pas aller les chercher, c'est que les boulangers ne sont pas éligibles aux aides. Donc ça, il faut bien que les consommateurs, que le gouvernement et que les gens le comprennent. Ça ne nous amuse pas d'aller dans la rue. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vais aller dans la rue. Mais c'est parce que notre profession est en danger, monsieur. Elle est en danger.
Alors justement, très, très concrètement, c'est quoi, vous, votre situation aujourd'hui ?
Ma situation, c'est x5. C'est-à-dire que je vais passer de 3 000 à 15 000 d'électricité. Je ne peux pas. Ma trésorerie est exsangue après le Covid. Vous savez très bien que déjà, la région parisienne, on a été très impactés par le télétravail. Paris s'est vidé. Nos chiffres d'affaires ont été vraiment en difficulté. On a vraiment perdu du chiffre d'affaires. Et là, on commence parce que nous sommes des professionnels. On a redressé la barre. Et là, les fournisseurs vont nous tuer, quoi. C'est pas possible. On ne pourra pas.
Julie de Vintraud me soufflait une question très intéressante.
Oui, bonjour. Vous me disiez que le critère était inadapté parce que l'énergie devait représenter au moins 3% de votre chiffre d'affaires, si j'ai bien noté,
par
de l'année
2021.
Hein, c'est ça ?
Oui.
Et je voulais savoir combien l'énergie représente dans votre chiffre d'affaires le plus récent, c'est-à-dire 2022.
Alors 2022, là pour l'instant, je frôle si vous voulez les aides, mais je ne peux pas les avoir. Et mon comptable est là, est en train d'étudier, de reprendre toutes les factures. Mais elles sont tellement compliquées à calculer, ces aides, que là il ne peut pas se prononcer. Même un expert comptable, qui est quand même quelqu'un qui est vraiment aux pointes des chiffres, il ne peut pas me dire exactement les aides que je vais avoir. Donc c'est dramatique. Un chef d'entreprise qui ne peut pas budgéter, c'est affreux.
Oui, alors là, vous avez toute la différence entre l'effet d'annonce et la réalité d'une mesure, avec éventuellement un peu de zèle des fonctionnaires chargés de mettre sur le papier, de coucher sur le papier les conditions, de mettre au point les formulaires, qui n'aiment pas que l'État dépense, pense-t-il, inconsidérément. Donc ça freine dans tous les coins et on arrive à ce genre de situation.
Un cas très concret. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Je ne suis pas la seule.
Merci pour votre témoignage. Vous restez avec nous. N'hésitez pas à intervenir. On le voit effectivement, Pierre Gentillet, cette complexité finalement pour obtenir ces aides. Et puis, autre problématique soulevée, c'est ces boulangers qui, au fond, sont assez mal représentés aussi.
Alors ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai vu... Peut-être que cette dame avait ça en tête, elle ne l'a pas dit. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux de nombreux boulangers s'exprimer contre le président de la Confédération nationale des boulangers. Il lui reproche notamment d'être complaisant vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et il faut dire qu'il a été décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron lui-même le 12 janvier dernier. Donc ça paraît compliqué, effectivement. Alors je ne dis pas que ça veut dire forcément qu'il est pieds et poings liés avec le pouvoir. Mais c'est quand même assez particulier. C'est comme si demain, M. Martinez était récompensé de la Légion d'honneur.
Ça marche pas.
Je pense qu'il y aurait quelques remous dans son syndicat, si vous voulez. Et en plus, ça tranche avec ce qui nous est dit là par cette boulangère. Ça tranche avec la situation que traversent les boulangers pâtissiers. Parce qu'il faut le dire, c'est pas les mauvais réflexes de l'État macronien qui consiste à distribuer des chèques à tout le monde, il faut arrêter. Ce n'est pas des chèques qu'il faut distribuer avec des aides, des trucs à remplir complètement très complexes, souvent d'ailleurs, et où ils ne sont pas éligibles. Il faut revoir ces contrats. C'est ça, c'est Il faut engager le bras de fer avec EDF. Il faut revoir notre politique énergétique de A à Z. Et je l'ai dit, je le répète encore, nos choix, que ce soit en matière de sanctions vis-à-vis de la Russie, que ce soit en matière de marché européen, que ce soit en matière, bien évidemment, de nucléaire, nos politiques ont une responsabilité écrasante dans la situation que traversent aujourd'hui nos petits artisans et au cas particulier ici, les boulangers. Donc, évidemment, c'est intéressant. Ils ne se sentent plus représentés par leur syndicat, par la Confédération nationale, pour les raisons que je vous ai expliquées aussi. Mais ils n'ont plus confiance dans les politiques. D'où ce nouveau mouvement.
Catherine. Pardon, EDF, c'est l'État. Donc, vous voulez que l'État engage le bras de fer avec l'Union.
Mais parce qu'il n'a pas la maîtrise. Mais vous savez bien, parce qu'il n'a pas la maîtrise avec le marché européen. Donc, et puis aussi, à partir d'août, vous savez qu'on ne pourra plus, même au niveau européen, on ne pourra plus réglementer les prix.
Nathan Dever, on entendait Catherine Maillard, finalement, le cri de désespoir de cette boulangère. Ils seront nombreux, je pense, demain, en tout cas, on verra bien, hors des syndicats, finalement, à s'organiser tout seuls pour défiler dans la rue et pour crier leur désespoir et appeler à l'aide. Donc, elle nous le disait, c'est juste, finalement, renégocier. Ça révèle quoi, selon vous, cette situation ?
Ça révèle, malheureusement, qu'on vit quand même dans l'ère de la communication. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, le message qui avait été envoyé par les boulangers à la veille des mesures d'aide choisies par le gouvernement était un message quand même extrêmement clair de SOS radical, si vous voulez. Il y avait des témoignages qui étaient d'augmentation, je cite de mémoire, mais des factures énergétiques de x10 à peu près, et même parfois c'était plus, c'était x15 ou x20 selon certains. Donc en tout cas, c'était très important. Et donc face à cela, nous avions un gouvernement qui nous avait dit... Nous avons pris la mesure des choses. Nous sommes conscients qu'il y a énormément de boulangers, d'artisans, de petits commerces qui sont là menacés de fermer définitivement. Et donc, nous agissons en conséquence. Ils n'agissent pas en conséquence parce que ce critère des 3% du chiffre d'affaires, donc à supposer qu'un commerce, une boulangerie fasse 2,5% de chiffre d'affaires, que sa facture énergétique soit multipliée par 10 ou par 15, eh bien, on passe quand même de 2,5 à 25%. C'est déjà une catastrophe. Donc, face à cela, on a cette question, me semble-t-il, de la communication. Oui. Et c'est à se demander si, parfois, on ne se moque pas un petit peu de nous quand on nous dit que les souffrances sont entendues et que les colères sont entendues. Et dernière remarque, c'est que cette question de la représentation des boulangers, moi, ça me rappelle quand même singulièrement le fait que pendant la crise sanitaire, les restaurateurs, qui étaient également en SOS, et c'est très comparable hein, la situation des boulangers et des restaurateurs, même pour une raison supra-économique, c'est que ce sont deux professions qui représentent vraiment l'âme de la France, l'esprit de la France. Et pendant la crise sanitaire, les restaurateurs étaient en situation de détresse absolue, et ils étaient représentés par des gens qui étaient aussi un peu de connivence ou de mèche avec le gouvernement pour dire que c'était pas si grave si on fermait les restaurants pendant X mois, etc. Et donc, dans les deux cas, on avait des métiers en souffrance qui n'étaient pas écoutés.
On va remercier Catherine Maillard donc de la boulangerie La Maillardise à Levallois-Perret. Un dernier mot peut-être avant de vous libérer. Demain, ça va être quoi le mot d'ordre ?
Je voulais simplement dire allez-y. Qu'il y a une différence entre la Confédération et le syndicat de la boulangerie.
Oui, pardon, oui.
Voilà. On l'a souligné. Donc, à ne pas me répondre, parce que je suis adhérente au syndicat et je veux y rester. Ça fait 20 ans que j'y suis. Et il y a un gros travail de fait. Et ils ont vraiment pointé le doigt sur les problèmes. Ils sont là pour nous aider. Mais par contre, M. Henrac, à la Confédération, est complètement en dehors de la base. Il n'est plus du tout, il ne suit plus du tout, il ne nous comprend plus. Voilà.
Entendu. Merci Catherine Maillard, de la boulangerie La Maillardise à Levallois-Perret. On va suivre de très près votre manifestation demain.
Merci
donc,
beaucoup.
Manifestation.
J'espère que ça portera ses fruits. Merci.
Eh bien, on l'espère également pour vous. Manifestation donc
on fera
demain
tout.
Des
on
boulangers.
Fera tout. Nous sommes des chefs d'entreprise responsables.
On n'en doute pas. Merci beaucoup. Bonne soirée, Catherine Maillard. Merci d'avoir été en liaison avec nous. Il est 22h55. Je vous propose à présent de dire un petit mot quand même sur la crise au Parti Socialiste. Alors, Olivier Faure, il a été confirmé vainqueur du vote des adhérents pour désigner le premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors, ça a été tout un feuilleton hein, depuis plusieurs jours. Une commission avait été mise en place alors que les résultats étaient contestés. L'opposant Nicolas Mayer-Rossignol, alors il ne reconnaît pas cette décision.
C'est pour ça qu'il s'est confirmé plutôt qu'il a été confirmé. Je vous rappelle que Olivier Faure est le président, le secrétaire du Parti Socialiste.
Olivier Faure s'est auto-couronné comme
alors,
l'empereur Bonaparte.
Je vous propose un petit résumé de la situation avec Célia Barotte et puis vous me direz ensuite votre point de vue par rapport à cette situation au Parti Socialiste.
Olivier Faure, eh bien, confirmé, réélu premier secrétaire du Parti socialiste.
C'est une annonce qui ne fait toujours pas l'unanimité. Après 15 heures de vérification par la commission de récollement, Olivier Faure, premier secrétaire sortant, l'a emporté avec un peu plus de 51% des voix face à Nicolas Mayer-Rossignol. Pendant le processus de récollement, 234 voix ont été retirées par rapport au résultat brut initial, soit 58 à Olivier Faure et 176 à son adversaire selon certains critères. De la violence sur un lieu de vote, des pressions et intimidations, des votes électroniques non conformes et la présence de bulletins dans l'urne avant l'arrivée des surveillants. Les travaux de la commission se sont clôturés par le refus des représentants du maire de Rouen de passer au vote, un comportement regretté par sa présidente.
On a proposé plusieurs scénarios de ce qu'on pouvait prendre en compte. Et à chaque fois, ce qu'on constatait, c'était que Olivier Faure restait en tête. Et donc, ça ne leur convenait pas.
Dans un communiqué, les proches de Nicolas Mayer-Rossignol dénoncent quant à eux un marchandage global d'un résultat donnant arbitrairement la majorité à Olivier Faure.
C'est inacceptable. Aucun parti démocratique ne peut l'accepter. Nous proposons de reprendre les travaux de notre commission demain. Nous appelons à la raison ceux qui imaginent qu'une solution de passage en force est envisageable.
À la fin de sa conférence de presse, la présidente de la commission de récollement a affirmé la mise à disposition de tous les éléments de travail au siège du Parti socialiste.
Alors c'est vrai, Nathan Devers, qu'on regarde, on suit cet épisode, ce feuilleton depuis quelques jours, et puis une interrogation tout de même, est-ce que les Français sont intéressés, selon vous, est-ce qu'ils suivent ça de près, est-ce que l'avenir du Parti socialiste, eh bien, ça les concerne, ou est-ce qu'au contraire, ils observent ce naufrage, le naufrage d'un parti certes historique, mais finalement, les dés sont jetés, un parti qui ne comptera plus.
Je pense que les Français s'y intéressent dans la mesure où on peut s'intéresser, vous savez, à un individu qui est un peu en déchéance, mais qui a représenté quelque chose par le passé. Mais je dis ça sans insulte, c'est-à-dire aux dernières élections présidentielles, le Parti socialiste a fait des scores très mauvais, mais il est vrai qu'il a une histoire qui est éminemment respectable, qui est grande dans l'histoire de France, qui est séculaire et qui n'est pas nécessairement finie. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le Parti socialiste est mort. Il peut tout à fait se relever, se renaître de ses cendres, c'est déjà arrivé dans l'histoire politique. Je trouve lamentable le spectacle quand même d'organiser des élections internes pour discréditer à ce point ce que c'est qu'une élection interne dans un parti. Alors, ce n'est pas le seul fait du Parti socialiste. Hein. L'UMP, les Républicains avaient fait ça. Enfin, l'UMP, après la défaite de Nicolas Sarkozy entre Copé et Fillon. Au Parti socialiste même, pour les élections du premier secrétaire, que ce soit en 2008 avec Martine Aubry, que ce soit, je crois, en 2005, il y avait eu des soupçons très très forts de fraude ou d'organisation un peu... d'élections un peu organisées comme ça à l'avance, avec des scores prévus. Enfin, c'était des soupçons. Hein. Mais si vous voulez ça, c'est lamentable. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que derrière, il y a un grand choix politique qui doit être fait. C'est que d'un côté, Olivier Faure fait partie de ceux qui accusent ses opposants d'avoir, disons, trahi le programme de la gauche sociale, qui devait être celui du Parti socialiste. Programme qui a été trahi en 1983, je laisse ça à Paul Melun qui en parlera, qui a été trahi après 2002, qui a été trahi aussi sous le mandat de François Hollande. Et c'est vrai qu'Olivier Faure, je trouve assez courageux, la manière dont il essaye de faire un diagnostic quand même de ce qui s'est passé chez François Hollande. Et en face, vous avez des gens pour l'accuser aussi d'être un traître. Et dans les deux cas, c'est vrai, mais dans des registres différents, de se soumettre à un organisme politique qui est plus fort que lui. Donc c'est cette crise, à mon avis, de deux tendances qui fait qu'il y a besoin d'un renouveau de la gauche social-démocrate.
Paul Melun, est-ce que ça ne discrédite pas encore plus la sphère politique? Parce que on voit ces tricheries, on voit, voilà, et donc...
Mais ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'il y a, en concentré en quelques jours... tout ce qui occasionne depuis des années et des années une sorte de défiance, pour ne pas dire de dégoût, qu'ont les Français pour le politique. Et ces gens qui, si vous voulez, notamment Olivier Faure, font partie de ceux qui crient haro contre les nouveaux populistes, contre les démagogues, partout en France, en Europe, et qui, si vous voulez, se présentent comme des perles à vertu ou des perles à morale, eh bien, sont en fait des tricheurs. Voilà la réalité. Et si vous voulez, c'est ça qui est paradoxal, c'est que la difficulté, c'est de s'imposer comme un parent de vertu, quand chez vous, eh bien, on voit que depuis des années et des années, il est difficile de tenir un congrès correctement. Il y avait eu cette guerre fratricide, jadis, entre Martine Aubry et Ségolène Royal, avec là aussi des scènes de ménage épouvantables. Là, on en revient à cela, alors même que, Nathan le rappelait, le parti a eu des résultats calamiteux aux dernières élections. On a l'impression que le Parti socialiste pourrait être à 0,5% aux élections nationales, et s'il y avait encore un siège à garder, il se battrait pour avoir ce siège. Mais ça, c'est un vieil héritage de tambouille et de triche qui déplaît copieusement aux Français qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui on voit des vidéos sur les réseaux sociaux avec des urnes qui sont planquées, des salles verrouillées, des gens qui rentrent, des policiers qui rentrent pour faire la loi à l'intérieur des permanences ou dans les fédérations du Parti Socialiste, de la tambouille avec des postes distribués pour telle ou telle élection parce que le PS est encore très fort aux élections locales, donc il y a encore beaucoup de postes à avoir et tant qu'il y a des postes, ces gens-là seront là. Donc si vous voulez, ça fait penser à des politiques cyniques qui se battent pour des postes, qui se battent pour des élections après des victoires à la Pyrrhus et des triches. Et ensuite, dernier élément, pardon, pour l'élection et les 2% de Mme Hidalgo, aucune espèce de renouvellement idéologique, plus du tout d'idéal. Jean Jaurès disait, la gauche, c'est aller à l'idéal en passant par le réel. Eh bien là, très franchement, on voit bien le réel chaotique, mais on voit plus du tout l'idéal au Parti.
Plus de cap, effectivement. Il est 23h, Julie Delentroux, vous vouliez réagir. Je vous laisse une minute, juste après.
Votre question était, est-ce que ça intéresse les Français?
C'est ça.
Rappelez-vous qu'au moment de la guerre Aubry-Royal, il y avait 180 000 militants au PS qui avaient pris parti.
Et là, 20 000 votants, là.
23 000. Vous êtes dur. 23 000.
Laissez les 3 000.
Donc en fait, la réponse, c'est que ça n'intéresse même pas les Français de gauche.
Bien sûr. Voilà. Donc c'est très clair. Il est 23h, passé de 1 minute. Le temps de faire le point sur l'actualité. On va retrouver Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
Après les mobilisations sociales d'hier et de jeudi, le thème des retraites s'est invité au Conseil des ministres franco-allemands. Emmanuel Macron souhaite que le gouvernement et le Parlement puissent travailler et aménager le texte de la réforme. Mais le chef de l'État veut avancer sur le sujet avec le moins de nuisances possible pour tous. Le projet de loi sera présenté demain au Conseil des ministres. Et justement sur les retraites, Jordan Bardella voudrait un référendum. Invité sur notre antenne ce matin, le président du Rassemblement national a plaidé pour cette solution afin, je cite, de sortir du débat par le haut. Il assure également que son parti présentera un projet alternatif, autrement dit une contre-réforme. Dans le reste de l'actualité, dans le 11e arrondissement de Paris, un homme a été tué par balle par la police ce soir. L'individu s'était montré menaçant envers des policiers. Il aurait été atteint à 4 reprises par 2 agents des forces de l'ordre. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une confiée à la police judiciaire parisienne pour éclaircir les motivations de l'homme, la seconde à l'IGPN concernant les tirs des policiers. Et puis des milliers de manifestants à Paris venus protester contre l'euthanasie et l'avortement. Près de 6300 personnes d'après la préfecture de police, 20 000 selon les organisateurs. Essentiellement catholiques conservateurs, ils sont opposés à la possible légalisation d'une aide active à mourir et à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.
Merci Isabelle. Isabelle Piboulot, prochain point sur l'actualité à 23h30. Et justement, la légalisation de l'euthanasie, on va en parler, on va en débattre dans un instant. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a suffisamment de débats
avec le Parti Socialiste.
De réflexion.
On va mourir dans la dignité pour voilà. Le Parti Socialiste.
Exactement. Nathan Devers, Paul Melun, Pierre Gentil, Judith Vintraub décryptent l'actualité, débattent, à commencer par la réforme des retraites. Elle est donc présentée demain au Conseil des ministres. Et on le disait, le président de la République, lui, s'est exprimé ce soir. Après un temps social de concertation avec les syndicats, il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée. Il faut le respecter. On en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit. Sauf que les syndicats, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, n'exclut pas de s'en prendre aux plus riches avec des coupures d'électricité et des actions pendant les vacances ne sont pas exclues. Écoutez-le.
À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, oui, il y a possibilité qu'il y ait des journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, durant cette période, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
Pierre Gentillet, les Français qui pourraient être donc pendant leurs vacances dérangés par des actions de la CGT, est-ce qu'au fond, ce n'est pas contre-productif ou alors ça annonce une volonté de blocage dans les jours à venir et un bras de fer finalement qui va se durcir?
On va voir aussi quelle sera l'étendue des mobilisations à venir. Alors pour l'instant, la première mobilisation s'est plutôt bien passée, hein, il faut le reconnaître. Il y avait plus 1 million de personnes, donc c'était quand même assez conséquent. Je parle pour Paris, hein, il me semble que c'était uniquement pour Paris. Hein,
si non, 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 c'était France, pour toute la France. 1 million à Paris sur 2 millions.
Donc on va voir les mobilisations à venir, parce qu'encore une fois, il faut aussi que ces mobilisations, que ces syndicats se sentent légitimes à aller plus loin. Moi, je pense qu'effectivement, c'est contre-productif. Si demain, on avait des coupures d'électricité, si on avait des grèves pendant les vacances, Si vous voulez, voilà quoi. Il faudrait que la CGT renouvelle un petit peu ses méthodes. Malheureusement, elle est sur des schémas qui sont des schémas assez archaïques. Par ailleurs, je le rappelle, je ne cesserai de le rappeler, ces gens-là ont appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Ils auraient rien pu ne rien dire, s'abstenir. Ils l'ont fait, qu'ils assument leur choix. Point.
Pour autant, est-ce que les Français risquent de trinquer, selon vous, Julie de Vintraux ? Bon, on sent qu'il n'y a pas une once de possibilité de dialogue pour le moment. On entendait le président tout à l'heure. Là, on entend Philippe Martinez qui l'annonce. Hein, ils ne vont rien lâcher. Ça semble compliqué.
Mais en fait, je pense... Ce n'est pas tellement Philippe Martinez qui est la clé du dialogue éventuel, la reprise CFDT. Du dialogue entre les syndicats.
C'est la CFDT.
C'est la CFDT de Laurent Berger. Et le problème, c'est que les 64 ans sont un totem et pour Laurent Berger et pour Emmanuel Macron.
C'est ça qui bloque et qui est intéressant.
C'est ça qui bloque complètement. Pourquoi ? Parce que Laurent Berger a eu un vote qui le tient des militants CFDT qui ne considère qu'il est hors de question de repousser le départ à la retraite à 64 ans. Il ne peut pas faire autrement que défendre cette position, qui n'était pas forcément la sienne, puisque lui, rappelez-vous, il était pour la réforme avec l'instauration d'un système universel à points, où il n'y aurait pas cette histoire d'âge pivot. Et Emmanuel Macron, de son côté, il est tenu par ses 64 ans, parce que la réforme est tellement complexe que personne n'y comprend rien. Et les autres concessions qu'il a faites, car il en a fait, par exemple, on vient d'apprendre que les 1200 euros minimum pour la retraite, ce serait étendu aux retraités d'aujourd'hui. C'était un point d'interrogation. On se demandait si ça allait venir dans le débat parlementaire ou pas. Mais c'est tellement compliqué. Il y a eu déjà le bug sur est-ce que c'est du brut, est-ce que c'est du net, est-ce que les jeunes vont bénéficier. Personne, ne demandez pas aux Français de plonger le nez dans un texte aussi technique. Donc, qu'ils retiennent, c'est 64 ans. Donc, voilà. Si Emmanuel Macron cède sur 64 ans, il aura cédé sur la réforme.
Alors, est-ce que ce n'est pas une erreur de communication, finalement, d'avoir avancé l'âge de 64 ans ? Est-ce qu'il n'y avait pas une manière un peu plus...
La même erreur qu'Édouard Philippe quand il balance l'âge pivot dans cette réforme systémique ?
Je doute qu'au strict plan de la communication, il y ait beaucoup d'erreurs pour le moment de la part du président. Et je vais essayer ce soir de faire un exercice un peu complexe. Je vais essayer d'être mentaliste et de me mettre dans la tête d'Emmanuel Macron.
Alors vous attend et on vous écoute avec intérêt.
Oui, un souverainiste dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est quand même un choc. Et très franchement, je crois savoir un peu de quoi il en retourne. Je pense qu'il va faire ce qui s'est fait depuis à peu près 95. Alors ça ne s'est pas fait avec beaucoup de succès pour Alain Juppé, mais ça a été fait après par un certain nombre d'autres. On peut citer par exemple Nicolas Sarkozy en 2010 pour la réforme des retraites. La méthode est la suivante. Vous mettez quelque chose comme dans toute négociation. Si vous avez déjà négocié un frigidaire, vous savez qu'au début vous mettez un prix très important. Puis après vous savez que de toute façon votre prix à laquelle vous êtes prêt à le vendre c'est 10% en dessous. Donc là le président de la République il a probablement... dans le tiroir du bureau de M. Dussopt, un certain nombre de concessions qui sont déjà écrites, déjà prévues. Et en général, je rejoins votre analyse, Judith, sur le rôle pivot de la CFDT. La CFDT vient dans le bureau, prend quelques mesures dans le tiroir de M. Dussopt, ressort en disant « le gouvernement a un peu compris ». Et comme ça, on calme les choses. Mmh. Et dans le même temps, je pense que le président veut jouer le pourrissement, tout simplement. Effectivement, s'il y a des grèves à tire-larigot et que le dialogue social ne s'est pas produit avant, eh bien, on va mettre les Français devant le fait accompli. Les gens diront, on fera des micro-trottoirs, les gens diront, oui, mais tout de même, je suis ennuyé, je devais aller voir mes petits-enfants, c'est les vacances. Le président dira, quand même, c'est un peu la pagaille, c'est syndicaliste.
Donc ça peut être une stratégie aussi.
Et donc, comme ça, progressivement, il espère que l'adhésion dans l'opinion publique va un peu s'éroder auprès des grévistes, des militants politiques, et progressivement, il finira par faire passer la réforme et toute cette affaire sera terminée pendant l'été. Et c'est ça, si vous voulez, qui est extrêmement cynique et qui est abject dans cette stratégie. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie d'être dans sa tête, Emmanuel Macron, et que je préférerais, si vous voulez, qu'il ait non pas une tête comme ça de technocrate prêt à essayer d'enfumer les gens, mais qu'il essaie, comme un président de la République démocratiquement élu, comme quelqu'un qui soucie de transmettre cet héritage légué par le général de Gaulle des acquis sociaux, eh bien qu'il essaie de faire de la politique et non pas de la combinazione, parce que là, cette affaire sans la combinazione à 20 mètres.
Alors, concernant la mobilisation, je vous propose d'écouter Manuel Bompard. Voyez ce qu'il en dit concernant cette bataille contre la réforme des retraites.
Si on était dans un mode législatif classique avec un projet de loi, bien évidemment, on aurait déposé beaucoup d'amendements pour laisser le temps à la mobilisation sociale de se déployer. D'accord. On n'est pas dans ce cas de figure-là aujourd'hui.
Oui,
le temps du débat parlementaire est limité. Donc nous, on déposera autant d'amendements que nécessaire. Je ne peux pas vous dire le nombre aujourd'hui. On ne connaît même pas le projet de loi final. Mmh. Donc attendez un petit peu. Mais on en déposera autant que nécessaire. Mais pour répondre à votre question très précisément, c'est pas par l'Assemblée nationale qu'on gagnera sur ce sujet. Ça me paraît une évidence. Il faut que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. Si on veut gagner sur ce sujet, il faut se mobiliser. Il faut participer aux manifestations, il faut participer aux mouvements de grève, parce que si on ne le fait pas, à la fin, on n'aura que les yeux pour pleurer.
Alors la bataille contre la réforme des retraites ne pourra pas être emportée à l'Assemblée nationale, Nathan Dever, elle sera gagnée dans la rue ou rien. Est-ce que ça annonce des semaines, des mois difficiles à venir ?
Ça, encore une fois, ça annonce des semaines ou des mois difficiles selon le comportement du gouvernement. Et en effet, sans jouer au devin... si on se contente de constater le comportement qui a déjà été, enfin, dont a déjà fait preuve le gouvernement, manifestement oui. Parce que veulent-ils faire ? Ils veulent faire ce qu'a dit Boll, déjà, sur la stratégie de négociation, mais j'ajouterais aussi un autre paramètre qui me semble central. Ils veulent mettre le débat au niveau de la rationalité économique technocratique. Ce qui fait, entre guillemets, un ticket d'entrée pour avoir le droit de débattre, très élevé. Hein, parce que l'économie, c'est une discipline très rigoureuse, très précise, très tatillonne, avec plein de nuances, plein de détails. Ce qui fait que s'asseoir autour d'une table et discuter comme ça de la réforme des retraites, en tout cas, dans l'esprit où veut le faire le gouvernement, tout le monde ne peut pas le faire, sauf les économistes, c'est-à-dire les trois quarts, enfin même beaucoup plus, la plupart des citoyens, moi compris, on ne pourrait pas le faire. Et, évidemment, en faisant ça, il passe à côté du vrai débat, qu'il juge frivole, qu'il juge insignifiant. Mais le vrai débat, c'est un débat philosophique, c'est un débat idéologique sur notre vision du droit social, sur notre vision du travail, sur notre vision de la temporalité, de la manière dont doit se répartir le temps de vie chez les citoyens. Et surtout, je dirais, de la politique au sens le plus noble, le plus fort ou le plus tragique du terme, selon, c'est la manière dont une décision politique, un débat technocratique, peut avoir un impact sur des chairs, sur des vies, sur des usures biologiques, physiques, organiques, dont une réforme peut faire en sorte qu'il y ait plus de citoyens, plus d'individus qui décèdent avant d'arriver à la retraite, qui puissent avoir faire plus d'accidents au travail, qui puissent, si vous voulez, être dans des situations qui vont les rendre davantage malades, qui vont nuire à leur santé. Et ça, à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le débat, raison pour laquelle ça ne peut pas se faire qu'au Parlement avec des amendements, etc.
Judith Vintraube. Oui,
j'admire beaucoup cette superbe indifférence pour les basses réalités économiques, cette élévation d'esprit, mais il y a quand même une autre donnée, c'est que la population active va culminer en 2040 et ensuite baisser assez sensiblement. Ce qui veut dire que si on ne fait rien, je ne dis pas qu'il faut le faire, selon cette réforme, moi je suis pour la capitalisation, une part de capitalisation, cette réforme n'en dit pas un mot. Si on ne fait rien, les retraités dont vous parlez et dont vous souhaitez l'épanouissement en bonne santé, eh ben, ils vont avoir une retraite qui sera équivalente à 30-40% au mieux de ce qu'ils gagnaient quand ils étaient dans la vie active. Et je vous assure qu'à 30% de ce qu'on gagnait, on n'a pas du tout, du tout la même vision de son bien-être et de son épanouissement.
Pour clore ce dossier sur la réforme des retraites, je vous propose d'écouter Eddy Mitchell. Alors, pas une chanson, Eddy Mitchell, mais il s'est exprimé sur Jean-Luc Mélenchon après la manifestation, cette manifestation qu'on a appelée la manifestation de la jeunesse soutenue par LFI. Eh bien, le chanteur Eddy Mitchell, lui, s'est exprimé sur la présence du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le.
Mélenchon, je ne comprends pas ce qu'il y fait, parce qu'il est déjà à la retraite, j'imagine, de toute façon.
Pas encore, visiblement.
Pas encore, mais enfin bon, ça va pas tarder. Mais je vois pas ce qu'il a à voir avec les jeunes.
Vous pensez que la politique ne doit pas se mêler avec cette
question
sociale de l'après-midi ?
Non, je suis pas d'accord.
Pierre Gentillet, il a raison, Eddy Mitchell, ou pas ? Jean-Luc Mélenchon n'avait rien à faire avec les jeunes.
Non, mais il me semble que c'était une quand on dit c'est une manifestation des jeunes, c'était, il me semble que c'était
des jeunes mélenchonistes.
C'est jeunes de la France insoumise, de la NUPES. Les jeunes, c'était un prétexte, si vous voulez. Et donc, évidemment, Jean-Luc Mélenchon y est allé, il a raison d'y aller, voilà. Maintenant, ça me permet de rebondir cet élément, si je me permets de faire une petite digression. Il y a un élément de langage qu'il faudrait arriver à faire bannir à tout prix du vocable de gauche. Et la gauche a bien réussi à se l'accaparer, c'est elle parle en permanence de la jeunesse. Je trouve que là-dessus, la droite est trop pudique et elle accepte trop facilement cet élément de langage. Non, ces gens ne représentent pas la jeunesse. D'ailleurs, la jeunesse ne vote pas majoritairement aujourd'hui à gauche, si on permet que la jeunesse aille de 18 à 30 ans et pas juste de 18 à 24 ans, on peut même prolonger bien sûr beaucoup plus avec tous les gens autour du plateau évidemment, mais si on reste dans les catégories franches, c'est vraiment la plus grande supercherie de la gauche, et ça depuis longtemps. Mai 68 a été un point culminant. De dire la jeunesse se mobilise, etc., etc.
Surtout non, ces gens,
bien sûr, ces gens ne représentent pas la jeunesse, et personne de l'échiquier politique ne peut se prétendre représenter la jeunesse, parce qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses éclatées, fragmentées, et ça c'est la grande supercherie de la gauche, de la rassembler derrière elle,
et
du coup de faire croire qu'elle la rassemble.
On va voir une partie de cette jeunesse, vous allez le voir, qui a défilé cet après-midi dans les rues de Paris, mais pour un tout autre sujet, puisqu'il s'agissait de la marche pour la vie, une mobilisation alors des pro-vie, opposée à la légalisation de l'euthanasie et opposée aussi à la constitutionnalisation de l'avortement. Ils étaient 6300 selon la préfecture de police, 20 000 selon les organisateurs. Ils ont rallié dans l'après-midi les Invalides au départ de Montparnasse. Et on écoute justement la motivation des participants, et vous allez le voir, ils sont jeunes.
On est là pour marcher pour la vie et pour montrer qu'on n'est pas forcément favorable aux lois donc, qui veulent légaliser l'euthanasie et inscrire l'avortement dans la Constitution.
Pour défendre la dignité humaine et retrouver le vrai sens de la vie.
La même importance qu'on accorde à un bébé.
Et au corps
de la femme. C'est une destruction intérieure.
Clairement, c'est surtout par rapport à ma foi de catholique. Je crois en la vie et pour le coup, je suis absolument contre l'avortement et l'euthanasie et tout ce qui apporte la mort.
Donc on voit des participants finalement assez jeunes à cette manifestation, avec comme l'une des deux principales revendications l'opposition à l'euthanasie. On sait que c'est un sujet délicat, compliqué, qui cristallise aussi les tensions. Est-ce que notre société, aujourd'hui, selon vous, Nathan Devers, elle doit se poser la question ?
Écoutez, dans les arguments qui sont employés ici, il y en a un que je trouve quand même très étrange, qui est celui consistant à invoquer la dignité humaine, pour dire son opposition à l'avortement ou à l'euthanasie. Précisément, la dignité humaine, c'est l'irréductibilité au biologique. Nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas des arbres, nous ne sommes pas des animaux encore que, mais si vous voulez, nous ne pouvons pas être uniquement considérés sous l'angle de la vie biologique. En grec, il y a deux mots pour exprimer la vie, il y a zoon et il y a bios. C'est-à-dire, il y a ces deux dimensions-là, la simple survie, le fait d'avoir un organisme qui est vivant, un cœur qui bat, un électroencéphalogramme qui n'est pas plat, et il y a ensuite l'existence. Et il me semble, il y avait eu un texte de Michel Houellebecq dans le Figaro, qui était intéressant, mais où il disait sur la question de l'euthanasie, qu'une civilisation qui légaliserait l'euthanasie, pour lui, n'avait plus le droit de survivre. Pour ma part, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire une civilisation qui réduirait l'existence humaine au biologique, alors là, pour le coup, ce serait une civilisation qui ne mériterait peut-être pas de s'ancrer dans la dignité humaine. Et d'ailleurs, Pierre sera peut-être d'accord avec moi, mais il me semble que le coronavirus, ça a été ça. Ça a été la réduction de l'existentiel, du métaphysique, du politique aussi, uniquement la question de la survie biologique.
Je suis d'accord avec le début de ce que vous dites. Alors évidemment, je pense qu'effectivement c'est un sujet compliqué, mais quand on dit c'est un sujet compliqué, on ne doit pas s'interdire d'en débattre.
Exactement, voilà. Et c'est pour ça qu'on le fait ce soir.
C'est une très bonne chose. Moi, je pense qu'il y a une autre manière d'appréhender la dignité. La dignité humaine, c'est considérer que nous ne disposons pas complètement de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des sujets de droit et non pas des objets de droit. On peut totalement disposer d'un objet, pas d'un sujet. Et nous ne disposons pas de la vie. Elle nous est concédée. Vous n'avez pas choisi de naître. Pas plus, quelque part, qu'on pourrait vous répondre que vous ne choisissez pas de mourir, si on prend ce point de vue, voyez-vous. Donc la dignité humaine, elle ne s'appréhende pas uniquement de la manière dont vous venez de le faire. Je pense, pour ma part, que les gens qui manifestent ont le droit de manifester. Ensuite, il n'y avait pas que l'euthanasie, il y avait aussi l'IVG, avec des nuances. Encore une fois, avec des nuances. Je pense que, et c'est moi ce que j'ai entendu dans les manifestants d'aujourd'hui, à la fois il y a des positions politiques, mais il y a aussi des positions philosophiques. J'ai beaucoup entendu les éléments de langage, dans ce qui était dit par les manifestants, nous ne voulons pas d'une politique de la mort. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire que la question de l'euthanasie, je le dis, c'est une question compliquée, mais je pense que c'est une question vertigineuse. Moi, je suis d'accord avec le texte de Houellebecq. Nous avançons progressivement, pas à pas, vers une société où tout est conditionné par notre simple volonté. Tous nos désirs, je reprendre une phrase connue, tous nos désirs sont des ordres. Bah, non, je pense qu'à un moment, il faut mettre des limites. Alors évidemment, on me dira, il y a des situations dramatiques, évidemment. Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai pas une réponse complètement tranchée. Je rappelle qu'il existe déjà des solutions, par exemple, les soins palliatifs, accessoirement. Donc le fait d'aller encore plus loin, non seulement c'est un basculement politique, mais c'est aussi un basculement philosophique. Et je pense contraire à la dignité humaine, pour le coup.
Julie de Vintraube, effectivement, question...
Question extrêmement compliquée. Moi, je n'ai pas d'avis très arrêté. Je trouve que la loi Leonetti, justement, sur la fin de vie, est un énorme progrès, voté à l'unanimité.
Voilà, elle a fait consensus. Donc, pourquoi aller plus loin ? Est-ce que c'est le moment aujourd'hui ?
Je crains, je vais vous dire, une bureaucratisation de la mort. Autant je considère qu'un individu est libre de savoir ce qu'il appelle, lui, la dignité. Je trouve l'expression le droit de mourir dans la dignité. Qui juge de la dignité selon, sinon l'individu qui est concerné. Personne d'autre ne devrait s'arroger, ou alors on tombe dans un système extrêmement dangereux. Vous avez des commissaires de la dignité, des cénacles, des administrations qui vous disent ah ben là vous ne cochez pas les cases de la dignité, donc ou qu'il dit à vos ayants droit, puisque imaginons que la personne ne soit pas en état d'exprimer elle-même sa volonté, je trouve le glissement extrêmement effrayant. Quant à l'avortement, moi je suis tout à fait pour qu'il soit légalisé en France, pas étendu au point où voudraient l'étendre certains de ses défenseurs.
C'est la constitutionnalisation de l'avortement, la question. Alors.
Pas constitutionnalisé. Et là, on arrive à un autre point qui est l'emploi de débats de société ou de lois ou de projets ou de mesures de société pour faire oublier son inefficacité dans d'autres domaines. À chaque fois, c'est le même coup. On fait un grand débat, de préférence une convention citoyenne, comme ça va être le cas avec l'euthanasie. Or, oui. on a vu avec l'écologie, la convention citoyenne, que quand on faisait ce genre d'usine à gaz, eh bien, qui en prenait la main sur l'usine à gaz ? Les militants acquis à une cause et une seule. Le débat n'était pas du tout objectif. Les gens qui participaient n'étaient pas informés. D'ailleurs, ils partaient dégoûtés parce qu'ils entendaient en boucle le même discours. Et à la fin, Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne prendrait pas tout, contrairement à ce qu'il avait promis.
Justement, les participants à la convention citoyenne sur la fin de vie, aujourd'hui, se sont exprimés. Ils ont très majoritairement exprimé avoir progressé dans leur réflexion sur ce sujet sensible. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas aussi effectivement là un débat national qui se doit jouer ? Est-ce que tous les Français devraient être consultés sur cette question ? Bien qu'on le répète, c'est une question très sensible aussi, avec transpartisane, et chacun a sa religion, sa philosophie.
Je trouve éminemment intéressant que le débat sur l'euthanasie ait lieu aujourd'hui en 2023 et pas il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Pourquoi ce débat sur l'euthanasie, ou le droit de mourir dans la dignité, selon la formule consacrée qui effectivement ne veut rien dire, pourquoi arrive-t-il maintenant ? Ben, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une concordance entre un moment de notre époque, notre histoire que nous vivons, à savoir la baisse de la spiritualité, l'effondrement de la chrétienté comme grande religion qui structurait les rapports sociaux en Europe, l'avènement d'une société en quête de spiritualité, nihiliste, technique, une société technique, une société dans laquelle l'homme prétend, dans une espèce d'arrogance terrible face à la puissance de la nature, face à la force des éléments qui balaie tout sur son passage, eh bien, encadrer la vie, encadrer la mort, encadrer absolument tout via la technique. Et il y avait un film qui était assez intéressant avec Charlton Heston, qui s'appelait Soleil Vert, qui était un grand film de science-fiction, qui a maintenant quelques années, quelques décennies même, et qui en venait à cela précisément, des grandes métropoles surpeuplées, polluées, dans lesquelles eh bien, on choisissait de sa fin de vie, et on avait droit à un petit film pour voir ce que l'on voulait. Et puis ensuite, un médecin arrivait, et il vous mettait la dose fatale. Eh bien ça, très franchement, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et je trouve que ça va avec une nouvelle façon d'appréhender la fin de l'existence, la mort. Et avant, dans l'histoire contemporaine française, et même dans l'histoire plus ancienne, la mort faisait partie de la vie quelque part. Vous allez dans n'importe quelle petite bourgade en France, le cimetière est autour de l'église. Chaque stèle est là, il y a quelque chose d'extrêmement tellurique, d'extrêmement puissant. Oui. Et c'est, vous savez, c'est l'enterrement ornant, le tableau de Courbet. Toute la communauté des vivants se met autour de la dépouille pour être autour d'elle. Quel avenir y a-t-il à des corps qui seraient comme cela, tués, euthanasiés, puis incinérés, parce que l'incinération augmente beaucoup. Est-ce que c'est cela l'avenir de l'Occident? C'est une triste métaphore de son avenir.
Nathan Devers, Pierre Gentil, je vous donne la parole dans un instant. Mais Nathan Devers, effectivement, ça questionne aussi cette question de l'euthanasie sur notre rapport aujourd'hui à la mort, à la fin de vie, à la maladie.
Alors bien sûr, j'ai un point d'accord avec Paul Melun qui, à mon avis, est central. C'est qu'en effet, peut-être que la modernité se constitue sur un refoulement absolu de la question de la mort. Naturellement, toute civilisation entretient un rapport étrange, mêlé de fascination, mêlé aussi de distance, de mise à distance nécessaire de la mort, mais où la mort est quand même acceptée à sa juste place. Il me semble que la modernité, ce qui la caractérise, c'est le refus, non pas tellement de la mort comme le trépas, l'instant où un corps décède, mais la mort comme perspective de notre finitude, de la condition humaine. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Au contraire, j'en tirerais la conséquence inverse par rapport à vous du point de vue du raisonnement. C'est qu'il me semble aussi qu'un des aspects de ce refoulement-là, c'est qu'on part du principe que la mort est une échéance qui ne nous regarde pas, et que donc, si vous voulez, étant donné qu'elle ne dépend pas de nous, on la laisse advenir comme elle adviendra, et elle ne dépend plus de notre liberté. D'où aussi toutes ces morts aseptisées qui ont lieu dans des couloirs d'hôpitaux, jaunis, poussiéreux, loin de chez soi, etc., et sans âme. Il me semble que face à cela, il y a quand même une vision romaine, pour le coup, qui est intéressante, c'est d'estimer que la mort est un moment de la vie à part entière, qu'à partir de là, il est aussi l'objet de notre liberté, et qu'on peut le façonner, le vivre, l'expérimenter comme n'importe quelle échéance, comme l'échéance du mariage, du premier enfant, comme l'échéance du premier livre, pour un premier livre ou je ne sais pas. Et donc, c'est-à-dire, c'est toute cette valorisation chez les Romains, non pas du suicide consistant à entretenir une fascination morbide pour la mort et de dire c'est génial, on va se tuer, etc., mais d'estimer que la mort peut être vécue comme un instant noble, et donc comme un instant qu'on choisit, et non pas qu'on subit.
Mais justement, oui, c'est mais plus vraiment...
À condition de ne pas être bureaucratisé, parce que oui. C'est ça le problème. Qui organise ce moment dont vous parlez, et avec quelle marge de liberté et qui décide de cette marge de liberté?
Le propre de la mort, justement, le propre de la mort, c'est que vous ne la choisissez pas. Vous ne la choisissez pas. Et c'est pas un hasard si toutes les grandes religions ont condamné la mort. Et j'irai même plus loin, c'est peut-être pas un hasard aujourd'hui si on a ce débat, enfin on aura peut-être demain ce débat sur la fin de vie, sur l'euthanasie, dans une société qui est petit à petit déchristianisée, qui est bien moins spirituelle, je parle pour la société française, bien moins spirituelle qu'elle était avant. Et pourtant, enfin c'est pas et pourtant, c'est concomitant, nous sommes dans une société de, je vais dire, de l'abondance, en tout cas par rapport à il y a deux siècles, de l'abondance matérielle, une société de consommation, mais qui justement, on voit bien, ne nous satisfait pas spirituellement, et donc nous sommes ramenés à quoi ? Nous sommes ramenés à des corps. Et donc des corps, nous en disposons comme on en veut. Et donc on décide peut-être à la fin, eh ben pourquoi pas, de se suicider, de se tuer, en tout cas de passer par l'euthanasie. Moi je trouve que c'est une société pauvre, vraiment très pauvre spirituellement. C'est un message de désespoir, je le dis comme je le pense. L'homme n'est pas la mesure de lui-même. Nous ne disposons pas complètement et pleinement de notre vie, de la manière qu'on n'a pas choisi de naître. On ne peut pas choisir comme ça de mourir. On peut passer par les soins palliatifs, bien évidemment, mais je pense que c'est très dangereux si on part dans cette société-là. C'est une société de la mort.
Pour revenir sur le contexte que nous évoquions depuis le début de cette émission, inflation, réforme des retraites, voilà, il y a les Français ont plein de soucis ces derniers temps. Est-ce que politiquement, ça vous semble le moment justement de...
C'est ce que je vous disais, ouais. C'est un moyen de faire diversion, ouais. Comme à chaque fois les sujets de société. Regardez, sous le quinquennat précédent, Emmanuel Macron avait déjà des problèmes à convaincre l'électorat de gauche que si il était et de gauche et de droite. De quoi s'est-il servi? De la PMA pour toutes. Il appelait la PMA.
Je crois que c'est même plus profond qu'une simple volonté de faire une sorte de paravent ou de disperser l'opinion. Je pense qu'il y a derrière l'inflation de ces sujets de société, ces sujets sociétaux et de la grande victoire du sociétal sur le social, notamment à gauche, et effectivement en cela la constitutionnalisation de l'IVG en fait partie, c'est les yeux braqués que nous avons sur les États-Unis d'Amérique, parce que c'est ça qui motive la décision de constitutionnaliser l'IVG. Enfin en France, personne aujourd'hui ne s'attaque à l'IVG dans la grande majorité des Français.
Ça, puis cette volonté de se sortir d'un débat économique.
Absolument, mais cette volonté, si vous voulez, de toujours considérer récupérer ce qui aurait été une conquête passée, oui, comme réactionnaire. Aujourd'hui, quasiment Simone Veil, lorsqu'elle avait mis la mention de la détresse dans l'IVG, François Hollande était revenu dessus. Aujourd'hui, on brocarderait Simone Veil pour ces termes-là. Et vous évoquez à juste titre la loi Leonetti, qui pour moi est déjà très bien faite et qui répond en grande partie aux questions de la fin de vie. Et on veut encore aller plus loin.
Et
une fois que l'euthanasie sera légalisée, si ces gens-là y arrivent, parce qu'il y a des lobbies très importants au niveau de l'Union européenne, et bien après, qu'est-ce qu'on dira? On dira encore plus. Alors, on dira qu'il faut aller plus, il faut trouver plus.
Je ne sais même pas si
c'est une fuite en avant terrible.
Bah justement, voilà, pour répondre, pourquoi est-ce qu'on veut constituer... Non, il faut comprendre, il faut expliquer aux gens, parce que c'est un sujet juridique. Pourquoi est-ce qu'on veut constitutionnaliser l'IVG? Parce que l'IVG, je le rappelle aujourd'hui, est autorisé. C'est légal, c'est une loi, bien connue évidemment, la loi de 75, qui a été d'ailleurs modifiée depuis, bien et beaucoup modifiée.
Largement
depuis,
modifiée.
D'ailleurs, pourquoi le constitutionnaliser? Parce que si on constitutionnalise ce droit, demain, seul un référendum, seule une modification de la Constitution le pourra. Si dans 10, dans 15, dans 20, dans 30, dans 40 ans, un autre gouvernement, une autre majorité, avec d'autres humeurs de l'époque, oui, peut-être l'époque évoluera, vous savez, c'est comme ça, et c'est la démocratie peut-être, eh bien on décide de passer par une loi, eh bien non, ce ne sera pas possible. Donc quelque part, c'est interdire de débat, c'est confisquer le débat.
C'est revendiqué ça, justement.
Ah, c'est précisément pour ça.
Non, mais c'est ce que je dis, mais ça, je pense que la majorité des gens ne le savent pas, ne comprennent pas l'implication juridique qu'il y a à constitutionnaliser, en plus du fait que la Constitution devient vraiment un fourre-tout général.
C'est pas la vocation de la Constitution.
C'est pas la vocation de la Constitution.
Constitution, c'est le projet de civilisation.
Mais bien sûr.
À ce que je sache, l'IVG n'est pas partie intégrante ou la pierre angulaire de notre projet de civilisation, même si
on aura l'occasion d'en redébattre, d'en reparler, bien évidemment. Il est 23h30 et c'est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel d'actualité.
Face à la crise énergétique, la grogne monte du côté des artisans et des boulangers. Une manifestation se tiendra demain à Paris pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie. Le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat appelle à une mobilisation à 14h, place de la Nation. Il réclame notamment à l'État un bouclier tarifaire pour tous. Drame à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Dans un immeuble, un homme a tué par balle sa compagne de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi. Il a également blessé la mère de sa compagne, âgée de 59 ans. Cette dernière a été hospitalisée à Brest. L'homme de 24 ans s'est ensuite suicidé en retournant son arme contre lui. Les autopsies seront réalisées demain à Rennes. Et puis en Californie, la police traque le tireur suspecté d'avoir tué 10 personnes. Des véhicules blindés ont cerné une camionnette blanche dans la ville de Torrance, au sud de Los Angeles. Néanmoins, les forces de l'ordre n'ont toujours pas confirmé l'identité de l'individu arrêté dans cette camionnette. Pour rappel, une fusillade a eu lieu hier soir dans un dancing de Monterey Park lors des célébrations du Nouvel An lunaire.
Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit. Il nous reste 11 minutes. Ça passe toujours très vite en votre compagnie. C'est toujours passionnant. Je vous propose, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas forcément dans notre pays. Je vous propose de terminer sur quelque chose qui semble le marcher. Puisqu'on a beaucoup parlé des rixes entre bandes ces derniers jours. On s'est interrogé aussi sur les moyens à mettre en place pour réaffirmer l'autorité de l'État, notamment via le service civique obligatoire, ce que souhaite Emmanuel Macron. Alors pour autant, selon une enquête de l'INSEE, eh bien la part des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation repart à la baisse. Et parmi les dispositifs mis en place, l'école de la deuxième chance, c'est un réseau de 139 établissements en France qui aide les jeunes décrocheurs à s'insérer dans la vie professionnelle. Voyez ce reportage à Marseille de Stéphanie Routier.
Durant 4 mois, ces élèves de l'école de la deuxième chance se préparent au métier de l'uniforme.
Ce qu'on cherche, ce n'est pas des personnes à enfermer dans un carcan militaire, bien au contraire, c'est des jeunes bien dans leur peau, qui ont envie de bosser.
Après son bac, Alexandre a tenté des études dans le commerce, puis dans l'audiovisuel. Rapidement, il s'est rendu compte que ces filières ne l'intéressaient pas. Depuis tout petit, il rêve de devenir policier. Aujourd'hui, avec l'école de la deuxième chance, il prépare ses concours.
C'est des opportunités qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Ça paraît tout bête, mais par exemple, j'ai rencontré des policiers qui nous apprennent à être meilleurs dans notre domaine, en sport, à l'écrit. C'est que du bon.
Comme ici, à Marseille, 139 écoles en France accueillent des jeunes décrocheurs sans emploi ou sans diplôme, pour les insérer dans la vie professionnelle.
La plupart du temps, ils manquent de confiance en eux et ils ne savent pas qu'ils ont des compétences. Voilà. Donc vraiment, notre objectif, ça va être de leur montrer qu'ils savent faire plein de choses. Et puis, une fois qu'ils en prennent conscience, c'est à moitié gagné.
Et les résultats sont là. Tous les ans, 64% de ces jeunes s'insèrent dans la vie professionnelle ou reprennent des études.
Ah, donc l'école de la deuxième chance, un dispositif qui a l'air de marcher. Alors on le voit, hein, c'est encadré quand même par des militaires, il y a de l'uniforme. Alors est-ce que, c'est souvent la question qui revient, est-ce que finalement cet encadrement militaire, est-ce qu'il ne faut pas profiter du savoir-faire de l'armée pour réintégrer ces jeunes? On s'interroge souvent, notamment ces jeunes délinquants, est-ce que la clé, elle n'est pas là, elle n'est pas devant nous?
Je trouve que le reportage montre quelque chose de formidable. Aucun dispositif ne peut se targuer au dispositif vis-à-vis d'une population qui a décroché des circuits habituels, ne peut se targuer d'un tel taux de réussite. Oui. Mais moi, je ne fais pas du tout le saut vers le service militaire ou le rétablissement du service militaire ou d'un encadrement militaire parce que j'ai des amis qui ont eu le malheur de faire les derniers services militaires. Il y a des gens auxquels ça a permis de passer le permis de conduire, voire d'apprendre mieux à lire, parce qu'il y avait aussi ça dans ce mélange de tous les jeunes hommes de France qui étaient à cette époque le service militaire. Il y avait aussi des trucs complètement débiles, des mois et des mois perdus avec des petits chefaillons. Donc, à mon avis, on ne peut pas du tout considérer ça comme l'alpha et l'oméga du retour de la jeunesse en mal de métier ou non inséré dans la société vers des voies plus prometteuses.
Mais en tout cas, est-ce que ça ne pourrait pas être un cap pour le gouvernement? On s'interrogeait de savoir où passait notre argent, l'argent des impôts. Là, il y a 139 établissements. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement en créer davantage réunir les décrocheurs?
Ce que j'allais dire, c'est que là, ce sont pour des métiers militaires. Alors, l'armée a...
Pas seulement.
D'accord. Alors dans ce cas, je vais changer mon jugement. si ces écoles sont là pour former de futurs militaires ou en tout cas des personnes qui sont utiles à l'armée, écoutez, pourquoi pas? Et somme toute, je trouve ça assez logique. Pour le reste, je me méfie de la tendance d'ailleurs que vous avez évoquée dans la question que vous me posiez, à savoir est-ce qu'on ne devrait pas généraliser ces dispositifs? Excusez-moi. Il y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale, je crois, quand même. Il y a des écoles. Et je ne pense pas que ce soit le rôle de l'armée de se substituer à des enseignants, y compris des enseignants de deuxième chance, hein, qui est des écoles pour une deuxième chance que la République française, que l'État français tendent la main. Alors, pas trop, mais tendent la main pour une deuxième chance. Hein, une deuxième chance, pas une troisième, quatrième, cinquième, dixième. Hein, ce n'est pas un abonnement à la deuxième chance. Il faut bien comprendre ça aussi. Pourquoi pas? Mais par contre, je pense que ce n'est certainement pas le rôle de l'armée de former les jeunes.
Donc à l'éducation nationale de revoir ses méthodes,
à la limite, s'en inspirer. S'en inspirer, oui, pourquoi pas, bien sûr.
Nathan Devers.
Oui, c'est très beau qu'il y ait des projets, des initiatives de substitution ou parallèles. Mais plus on passe de temps à s'extasier de ces projets, mais on a raison de le faire, hein, et moins on remarque en effet que le problème, c'est qu'il y a une éducation nationale, une université aussi, qui est en défaillance. Alors face à cela, c'est des institutions, même qu'il y ait des initiatives entre guillemets personnelles, extra-étatiques, qui essayent de remédier aux carences de l'éducation nationale, c'est-à-dire notamment au fait qu'il y a beaucoup de reproduction, enfin que l'éducation nationale est aussi une machine de reproduction sociale, et qui ne fonctionne malheureusement pas assez avec l'égalité des chances, c'est-à-dire avec un enseignement qui est d'aussi bonne exigence et d'aussi bonne qualité partout. C'est formidable. En 2002, pour le coup, quand Michel Onfray avait réhabilité l'idée d'université populaire, ensuite on peut discuter de ce qu'il en a fait, mais l'idée de faire revenir sur le devant de la scène publique cette grande idée du 19e siècle qu'était l'université populaire, c'était une idée importante. Il y aurait d'autres initiatives à prendre. Mais il me semble que tout cela doit aussi et surtout s'accompagner d'un diagnostic sur l'état de l'éducation nationale, et en l'occurrence, et de l'université, sur le fait qu'en France, nous avons assisté, c'est normal, depuis 20-30 ans, à une augmentation démographique importante. Et que les hausses de budget, les hausses de places à l'université n'ont en fait pas accompagné cette évolution démographique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement souvent avec des baisses de budget, mais nous sommes même avec
des désaccords de Julie de Vintraux
à l'université. La massification de l'université est un fait. Et elle n'a pas apporté forcément un mieux-disant ou quelque chose de positif au sein de l'université.
Il y a plus de monde que d'étudiants. Que de professeurs, pardon. C'est-à-dire le rapport proportionnel entre l'augmentation démographique, donc augmentation du nombre logique d'étudiants qui vont être amenés à l'université, et augmentation de création de postes, augmentation d'infrastructures, augmentation, en fait, si vous voulez, des capacités d'accueil et d'instruction de ces étudiants, n'a pas été proportionnel.
Enfin, vous pouvez prendre le problème sur
Julie de Vintraube.
Le fait qu'il y ait des premières années en droit, en histoire, en sociologie, dans lesquelles vous avez des milliers d'étudiants, alors qu'on sait très bien que derrière, il n'y a pas de débouché professionnel.
Exactement. Et si le nombre de postes est égal gage de réussite d'un système, il n'y aurait aucune raison que l'éducation nationale échoue.
Non. Mais je pense que, Nathan, par contre, vous avez raison de mettre le débat au niveau de l'éducation nationale et même de l'éducation populaire, si on fait référence à l'initiative de Michel Onfray sur l'université populaire Normandie. C'est que c'est là que le bât blesse dans notre pays. Et pourtant, c'est là qu'il y aurait tant et tant à faire. Après, il y a une grande difficulté, c'est que moi, le premier, je prends la critique pour moi-même. Lorsqu'on débat d'un problème de société, que ce soit la délinquance, que ce soit la quête de sens pour la jeunesse, là, on remet toujours le débat de l'école et on met toujours la responsabilité sur l'école. Non, mais l'école ne fait pas assez bien. Bon, c'est difficile parce que l'école, elle est là aujourd'hui pour soigner les maux MAUX d'un certain nombre de problèmes qui sont bien plus profonds et qui traversent la société et qui rejoignent un peu notre débat, pardonnez-moi, sur la fin de vie ou sur l'inflation, sur tous les sujets qu'on a balayés ce soir, qui sont pour moi le symbole d'un Occident qui se cherche, qui n'est plus en mesure d'offrir le même degré de transcendance et d'absolu qu'il n'offrait dans les Trente Glorieuses ou à la Belle Époque au début du XXe siècle. C'est difficile aujourd'hui, je pense, pour les jeunes, loin de moi l'idée d'en faire le porte-parole, même si j'étais jeune il n'y a pas si longtemps.
Mais vous l'êtes encore.
Je le suis encore un peu, avec Nathan. Enfin, toujours est-il que... Et avec Pierre, oui, c'est vrai.
Et surtout
avec Julie.
Tout le monde.
Non, en fait, on est tous légitimes, on va dire à Eddie Mitchell, on est tous légitimes à parler de la jeunesse, en fait. Non, mais voilà, si vous voulez, je pense qu'il faudrait... Avant tout réfléchir, mais ça c'est un projet de société qui est immense, à quelle transcendance on offre aux jeunes, quelle spiritualité, quel avenir on leur donne dans ce pays, quelle place on leur donne dans ce pays. Et après on passera effectivement par des mesures de mixité. Et là c'est une des rares fois où je suis d'accord avec Pap Ndiaye, c'est quand il parle de la mixité. C'est qu'effectivement, si vous... Alors ceci dit, il ne se l'applique pas à lui-même puisqu'il a mis ses enfants à l'école alsacienne. Mais enfin, s'il avait une vie moins antiphilosophique, il les aurait mis dans le public. Moi j'ai fait toute ma scolarité dans le public, il y a de très bons publics. Mais en tout cas, je pense qu'on mérite cela aussi. Et si vous voulez, je pense qu'une partie importante de la réussite des jeunes élèves il y a quelques années, il y a quelques décennies maintenant, résidait aussi dans cette mixité. Que le fils ou la fille de médecin était avec le fils ou le fils d'ouvrier parce que c'était des quartiers ou dans lesquels il y avait des lycées publics dans lesquels beaucoup de gens allaient. Et bien aujourd'hui, ça, c'est en train de se perdre. Donc le problème de la mixité, il est très important. Et ensuite, sur le sujet de la discipline et de l'autorité, effectivement, il devra venir aussi. Mais là aussi, ce n'est pas seulement l'école. Et effectivement, sur la dimension du SNU et sur la perspective d'un service militaire, moi, je ne suis pas complètement opposé à l'idée d'un service militaire. Je pense qu'il devrait être restauré pour éviter les chefaillons et qu'il devrait être différent de celui d'il y a quelques années, probablement mis fin par Jacques Chirac. Mais je pense que c'est une bonne solution. La réserve dans la gendarmerie, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place aussi. Et je crois qu'on a le droit de faire confiance aussi à nos militaires, à nos policiers gendarmes pour encadrer les jeunes.
Et Julie de Vintraube pour le mot de la fin.
Oui, juste, je comprends votre nostalgie, mais à mon avis, à l'époque dont vous parlez, ce qui donnait le dynamisme et l'espérance, c'était la certitude ou la quasi-certitude que ces enfants auraient une situation meilleure.
Les enfants vivront mieux que les parents.
Voilà, que les enfants vivront mieux que leurs parents. Demander à une société de nous fournir un sens de la vie, en fait, une transcendance, ce n'est pas son travail. Ne confondons pas les registres.
Merci Judith Vintraube. Merci à tous les quatre. Merci Pierre Gentillet. Merci
à vous.
Merci Nathan Devers. Alors Paul Melun et Nathan Devers qui sont arrivés ensemble. Vous aviez un petit peu froid tout à l'heure. Je me suis demandé si vous aviez pas fait la Glagla Race sur le lac d'Annecy. On va peut-être voir les images. La plus célèbre des compétitions hivernales de paddle. Elle a lieu ce week-end. Regardez ces images magnifiques. C'était la 9e édition hier.
Nathan Devers, c'est du pédalo qui fait.
C'est du pédalo, c'est ça. J'ai 80 participants. Une eau à 6 degrés. Température moins 3 degrés. Je ne sais pas si vous êtes tombé dans l'eau. Alors, chez les hommes, c'est le Français Ludovic Tolade qui a gagné. Chez les femmes, c'est la Suisse Anna Tchirki. Donc, chapeau à eux. C'est très beau à regarder, surtout quand on est au chaud.
On est content de paillettes, mais c'est vrai.
Merci infiniment. L'actualité continue sur CNews. Vous retrouverez pour l'édition de la nuit Mickaël Dorian. Et puis, vous le retrouvez ensuite pour une rediffusion de Face à You Folle. Excellente mission de trentaine.